Bonjour et bienvenue sur France Culture. Nous sommes en direct tous les samedis et tous les dimanches du mois de juillet de 12h40 à 13h50 pour décrypter les grands thèmes de l'actualité internationale et nationale. Aujourd'hui, nous débattrons des conséquences de la crise des migrants sur les partis politiques français. Puis nous nous poserons la question suivante. Le style Jupiter du président Macron est-il un problème si ça marche ? Depuis que Bruxelles a voulu imposer des quotas de réfugiés aux pays membres de l'Union européenne en 2015, le sujet fracture la scène politique française. Mais avec la crise du bateau humanitaire Aquarius, puis l'arrivée au pouvoir en Italie d'un gouvernement d'alliance entre les populistes et l'extrême droite, il oppose aussi les différents courants au sein d'un même parti. Virginie Calmels, la numéro 2 des Républicains, a été limogée le mois dernier. Elle critiquait, entre autres, le nouveau tract des Républicains pour que la France reste la France et ce qu'elle considère comme la dérive droitière de Laurent Wauquiez, le président du parti. Le clivage entre dur et modéré sur la question s'était déjà observé à droite pendant la campagne présidentielle entre François Fillon et Alain Juppé. L'accueil des migrants divise aussi la majorité. Son aile gauche milite pour davantage d'ouverture, tandis que l'aile droite, représentée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, mène une politique de fermeté. En avril, lorsque le projet de loi Asile et immigration a été adopté, 17 députés de La République En Marche se sont abstenus. Et un tiers ne sont pas venus. Cette loi revient en deuxième lecture à l'Assemblée le 25 juillet prochain. Mais au-delà de l'actualité française, le sujet, qui pendant des années est resté relativement tabou dans les élites françaises, s'impose déjà, avant même qu'elle ne commence, dans la campagne électorale des élections européennes qui auront lieu en 2019. Avec nous, pour en débattre, Jean-Pierre Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS, président du club Politique Autrement. Vous avez publié en 2016 chez Stock « Malaise dans la démocratie » et vous venez de recevoir le prix Pétrarque de l'essai France Culture pour « La France d'hier, récit d'un monde adolescent, des années 1950 à mai 68 chez le même éditeur ». Martial Foucault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Votre dernier livre, coécrit avec Richard Nadeau, porte le titre suivant « Ville de gauche, ville de droite, trajectoire politique des municipalités françaises » de 1983 à 2014. Il a été publié aux presses de Sciences Po en 2018. Et Olivier Mongin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la revue Esprit, dont le dernier...
De publication, excusez-moi.
Pardon.
Et non pas de la rédaction, je tiens à le dire.
Oui, de publication de la revue Esprit, dont le dernier numéro, celui de juillet-août, est consacré au courage de l'hospitalité. Vous avez publié en 2013 chez Fayard, La ville des flux, l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine. Jean-Pierre Le Goff, dans un contexte général d'affaiblissement des partis politiques, quel est selon vous le poids du thème des migrants sur les différents mouvements ? Ce sujet qui est un défi majeur pour l'Europe dans les prochaines années, est-il en train d'écraser, de dominer tous les autres ?
Je pense qu'il est central dans ce que Finkielkraut appelait l'identité malheureuse. Alors, à tort ou à raison, mais je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Je crois que d'ailleurs c'est Hubert Védrine qui disait « Les gens ont le sentiment que l'Europe est une passoire ». Alors bon, il faut regarder les chiffres plus précisément, mais on ne peut pas traiter cette question-là comme si c'était simplement du populisme. On viendra tout à l'heure sur Emmanuel Macron, mais bon, à propos, il critique un certain nombre de montées de mouvements d'extrême droite. Enfin, la lèpre, vous voyez, la lèpre. Mais il faut quand même se rendre compte, au-delà de la traduction politique, à quelle colère contenue ou à quelle angoisse ça répond. Sinon, on continue. Donc je pense qu'effectivement, c'est un des points dans les préoccupations. Bon, il y a le chômage, il y a la sécurité. Et c'est d'autant plus important que on fait... Les gens, il me semble que l'opinion fait un pont, si vous voulez, avec aussi l'islamisme. C'est pas simplement les attentats, c'est que l'immigration, il y a un pont qui est fait, je pense, entre les vagues migratoires. Alors, il faut revenir sur les chiffres, on en discutera rationnellement, parce que là, je parle de l'état un peu de l'opinion, me semble-t-il, avec la montée d'islamistes. Et la montée d'islamistes, c'est pas simplement les attentats, c'est que dans ces pays-là, on assiste globalement à une montée de l'islamisme. Ces deux points-là, si vous voulez, dans l'opinion, sont quand même très importants à traiter. Et là, on a différentes réponses, et je pense que ça casse, on en parlera à droite comme à gauche, c'est un point de clivage très important.
Olivier Mongin, sur ce sujet, vous pensez aussi que ça écrase tous les autres et que c'est en train de secouer
c'est
complètement.
C'est la question que je me pose, mais Martial Foucault pourrait certainement répondre mieux que moi, parce que le discours qui est en train de s'installer dans les gens qui essaient d'interpréter, c'est que justement, on avait un logiciel qui regardait essentiellement, c'était le logiciel un peu social-démocrate, surtout à gauche, qui regardait vers les inégalités, vers le problème salarial, vers le, etc. Donc c'était la question de l'inégalité qui était centrale. Et c'est vrai qu'on a refoulé le débat sur l'identité, en très grande partie, en laissant ça comme un problème non pas annexe, mais voilà. Moi, ma grande question, c'est de savoir si, effectivement, je pense que c'est le cas, je serai là-dessus assez d'accord avec Jean-Pierre Le Goff, qu'on est en train de glisser. Reste qu'après, moi, ma réflexion, c'est qu'on est dans un contexte assez complexe, mais on y reviendra, je vais très rapide, c'est qu'il y a un flou total dans le langage. Même Macron souffle le chaud et le froid, comme disait très bien Hervé Lebras récemment. On ne sait pas de qui il parle, parce que le problème des migrants, c'est un problème extrêmement complexe. On a un problème de langage qui n'est pas que le fait des journalistes, des intellectuels. Et aujourd'hui, tout est focalisé sur la question des réfugiés. Les réfugiés, bah, c'est ceux qu'on voit dans... c'est l'Aquarius, c'est le môme qu'on avait vu sur une plage de Turquie, si je me souviens. Ouais. Bon, c'est l'horreur, c'est l'émotion, c'est effectivement la réponse par soit la bonne ou la mauvaise conscience. Et donc, on a une espèce de moralisation d'un côté du débat, qu'on va trouver plutôt à gauche, je pourrais y revenir, puisque le numéro qui a été fait, c'est un peu sur... Est-ce qu'il peut y avoir une politique...
Vous avez le temps d'y revenir
oui, oui. Maintenant. Non, mais tout de suite, on est en entrée de jeu, là, je sais.
Voilà.
Est-ce qu'il peut y avoir une politique de l'hospitalité qui part du bas et qui n'attend pas tout de la politique publique, des politiques publiques qui apparaissent extrêmement impuissantes. Donc d'un côté, on a un peu une moralisation qui doit devenir un peu plus politique, et de l'autre côté, je reprends l'expression de mon ami Alain Frachon, il y a une hystérisation... qui est le fait des partis politiques en grande partie. Hein, et là, c'est un peu de ça dont il faut essayer de parler, parce qu'effectivement, on a un problème de langage, de quoi on parle, et ça, c'est pas clair du tout, alors qu'on est dans une période où il faut aussi sortir de l'hexagone, enfin moi qui travaille sur la mondialisation urbaine, qui à mon avis la question centrale, qui est celle de l'urbanisation, il faut quand même savoir qu'on assiste à l'échelle du monde à la dernière génération de l'exode rural. Hein, donc que vous soyez au Pakistan, en Afrique subsaharienne qu'on connaît mieux, tout ça aura des effets. Je ne parle pas pour autant d'invasion, bien entendu, c'est pas. Mais il faut quand même qu'on se mette dans un contexte historique qui est celui d'une mondialisation qui n'est pas que le problème économique, qui n'est etc. On pourra peut-être y revenir. Et d'ailleurs, on voit des réponses qui passent aujourd'hui beaucoup plus par les villes. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, que par les États, par des micro-groupes qui s'installent. Le thème de la ville-refuge en Espagne, extrêmement important. Beaucoup de mérites sont... Voilà, donc moi, j'aurais tendance, tout en étant un peu en accord avec Jean-Pierre Le Goff, à dire attention, ne soyons pas trop hexagonaux. Parce qu'à force d'être hexagonaux, on s'enferme, on se replie, on panique et on est dans le passionnel. Alors, on pourrait y revenir sur les partis. Je trouve qu'il y a une hexagonalisation que Macron, à sa manière, renforce un peu, alors qu'il nous avait dit « on va rentrer dans le nouveau monde ». Ça, j'en parlerai tout à l'heure. On n'est pas en train de rentrer dans le nouveau monde. On est toujours dans un ancien monde. Alors, l'Europe n'arrange pas les choses. Hein, et on voit plutôt l'ancien monde se durcir. Moi, c'est un peu ma thématique. Moi, j'essaye de prendre les choses sur un mode un peu historique. Un an après, on rentre pas dans le nouveau monde. On a l'impression, au contraire, de régresser un peu. Pourquoi ? Voilà. Alors la première chose, ça serait effectivement de savoir de quoi on parle, mais bon, on peut peut-être revenir. Parce qu'il me semble que dès lors que la thématique des réfugiés, qui est minoritaire, je peux prendre des chiffres, même si pour nous elle est la plus décisive sur le plan des émotions, c'est pas nécessairement la question qui va nous permettre de repenser une politique migratoire.
Martial Foucault, de quoi on parle selon vous ? Et aussi, est-ce que cette crise qui se traduit par une crise politique, vous la situez quand ? C'est l'Aquarius, c'est 2015, ou je crois que vous la faites remonter à avant, à 2005. Hein ?
Disons, quand on parle de l'enjeu de l'immigration, c'est vrai que à l'échelle nationale, cet enjeu n'est pas jugé comme prioritaire par les Français parce qu'ils continuent, ça a été dit à l'instant, de considérer que le chômage est la priorité des priorités, et puis ensuite la sécurité, phénomène amplifié après l'année 2015. Pour moi, la question de l'immigration, telle qu'on on la discute en ce moment, peut pas être dissociée de l'Union européenne. Et puisque la question était, est-ce que l'immigration est en train de fracturer en quelque sorte toutes les familles politiques françaises, anciennes ou nouvelles, pour moi il faut remonter à 2005, le référendum sur le traité constitutionnel, parce qu'on a vu à cette occasion que finalement au sein des familles politiques traditionnelles il y avait une fracture, les partisans, également les anti Union européenne, et précisément aujourd'hui dans l'espace national on bute sur la question migratoire, parce que si vous voulez, pour schématiser les choses, vous avez les tenants d'une politique qui doit continuer d'affirmer une souveraineté nationale, et l'immigration est un élément, un outil de l'expression de cette souveraineté nationale. Et puis vous avez les tenants d'une européanisation, le terme n'est pas très joli, mais européanisation des politiques migratoires, et au fond on traîne depuis 2005 ce faux semblant en disant parce qu'il faut bien voir, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais quand on parle de chiffres, bien sûr, d'un point de vue dans l'absolu, c'est environ 100 000 demandes d'asile. Alors on dirait dans l'absolu c'est peu, mais relativement depuis 2005 c'est une progression considérable, on a multiplié par 3. Alors est-ce que les pays, avec leur législation, mais aussi avec, d'une certaine manière, leur idéologie, sont prêtes et sont préparées à accueillir ces demandeurs d'asile. Je crois qu'aujourd'hui, non. Et si la réponse est non, c'est parce que au sein, en tout cas c'est l'argument que je défendrai, c'est-à-dire au sein des familles politiques, vous avez rappelé le vote à l'Assemblée nationale sur la loi, si un tiers des députés de La République En Marche s'abstiennent, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un malaise au sein de cette majorité, parce que, rappelons-nous quand même le propos d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale vis-à-vis de la politique migratoire, veuillant faire de la France un pays humaniste, un pays qui réveille les droits de l'homme, en indiquant « je ferai en sorte que plus aucune personne ne dorme dans la rue ou dans les bois ». Bon, évidemment, les propositions qui ont été débattues ne renvoyaient pas exactement à cette attente. Donc aujourd'hui, les partis politiques en France, mais c'est pas simplement le lot des partis politiques français, c'est vrai aussi dans d'autres pays, on vient de le voir en Italie, c'était vrai en Autriche, et sans parler de la Pologne. Donc les partis politiques aujourd'hui sont finalement, et c'est un grand classique de la politique européenne, quand tout se passe bien, l'Union européenne, c'est au bénéfice des politiques nationales. Quand tout se passe mal, c'est l'Union européenne qui serait absente. Et je considère que aujourd'hui, et notamment dans le débat français, la politique migratoire ne peut plus s'envisager seulement dans un contexte national. Parce que sinon, on a ces phénomènes de passagers clandestins. C'est-à-dire qu'on va considérer que c'est à l'autre pays de faire l'essentiel des efforts. Et puis, il y a cette ambiguïté, on en a beaucoup parlé pendant le débat sur le vote de la première loi, en tout cas en première lecture, ces ambiguïtés presque sémantiques, et Olivier Mongin vient de le rappeler, c'est-à-dire il faut être très très prudent sur le vocabulaire qu'on utilise. Que sont les réfugiés? Que sont les demandeurs d'asile? Que sont les migrants? Cette distinction migrant économique, migrant politique, on voit que c'est source quand même d'énormément d'émotions négatives plutôt que positives. Et la France et l'Union européenne font face à une vague inédite au cours de ces 50 dernières années de demandeurs d'asile, de réfugiés politiques. Et doit en même temps gérer ce qui est l'essentiel des flux migratoires pour des raisons économiques.
Parce que, en fait, Jean-Pierre Le Goff, il y a deux sujets, en fait. Il y a une droitisation générale des partis politiques, hein, qui se fait l'écho, enfin, qui reflète celle de la société. Et puis, il y a aussi les clivages au sein des partis politiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce sujet-là, il y a encore un clivage droite-gauche? Parce que, à gauche, on a Manuel Valls, qui n'est pas du tout sur la même ligne. Et à droite, on a un courant libéral qui est plus ouvert aux migrations. Donc ça a fait complètement exploser la droite et la gauche.
Bah, je pense que ça fait partie des thèmes un peu transversaux dans lesquels on ne peut pas se retrouver schématiquement, quoi. Hein, y a l'immigration, il y en a d'autres d'ailleurs, hein, y compris sociétales, qui sont d'un autre ordre. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, puisque vous parlez d'Europe, c'est que Vous prenez par exemple le dernier sommet européen, j'ai pas l'impression que ça a résolu grand chose. Il y a un grand décalage entre le discours, parce qu'en fait, on peut reprendre tous les arguments. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses d'énormes qui ont été dites, si vous voulez. Premièrement, alors on va vous dire, d'une certaine façon, d'ailleurs on l'avait dit, renforcer la police des frontières. Bon, ensuite, droit d'asile ne doit pas être détourné. Distinction demandeur, droit d'asile, et ceux qui sont admis comme réfugiés, ce qui pose par un examen. Et migrants économiques. Enfin, il faudrait prendre les choses point par point. Il faudrait un traitement plus rapide des dossiers. Il faudrait des centres, alors fermés, sécurisés aux frontières ou pas, etc. Et des quotas de migration par pays. Ce sont des choses qui ont été mises sur la table. Le seul problème, c'est quand vous rentrez dans le détail des différents pays, bien vous apercevez que les intérêts nationaux de chacun, on se repasse le bébé, si j'ose dire. Excusez-moi l'expression, mais c'est à peu près ça. Donc, comment voulez-vous que l'opinion puisse croire à l'Europe qui va régler tout. Ça fait quand même plus de 6 mois qu'on est sur l'histoire des frontières extérieures avec les gardes-côtes. Alors, il y a un renforcement, très bien. Mais je veux dire, ça paraît complètement insuffisant par rapport au problème. Et si je prends le problème, si vous voulez, un peu plus concrètement, moi, j'ai pas la solution, mais par exemple, alors, il y a la démagogie. Le ministre de l'Intérieur italien avait proclamé qu'il expulserait 50 000 clandestins. Enfin, je veux dire, c'est totalement irréalisable. D'autre part, on a un problème qui est pas facile. Faut savoir que les clandestins détruisent beaucoup leurs papiers d'identité. Et quand on essaie même de renvoyer dans les pays d'origine sont assez, disent, attendez, on va pas tout reprendre, on en prend un quota, on n'en veut pas. Et le problème, c'est le rapport entre le nombre d'entrées régulières et le retour dans les pays d'origine. Et là, excusez-moi, ça va pas dans le sens du retour dans le pays d'origine. Quand Macron avait déclaré, je crois que c'est à la suite du sommet européen, hein, les demandeurs d'asile actuels sont à 80% des migrants économiques qui n'ont pas vocation à rester en Europe. Moi, je veux bien, mais comment on fait? Et là-dessus, j'ai l'impression qu'on est toujours dans une espèce de flou qui déconsidère l'Europe. Je dis le problème n'est pas facile parce qu'il y a un autre problème qui s'appelle le transfert d'argent par rapport à la diaspora. On dit, et d'ailleurs c'est une proposition tout à fait rationnelle, il faut faire ça en coopération avec les pays d'origine. Sauf que, y compris en mettant de l'argent. Sauf que quand vous regardez les choses, les flux financiers générés par la diaspora sont quand même très importants. La Banque mondiale indiquait par exemple que les transferts d'argent vers l'Afrique subsaharienne s'élevaient en 2016 à 49 milliards de dollars. Vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et à 33 milliards de dollars vers l'Afrique subsaharienne. Alors, quand vous regardez les chiffres d'aide publique mise en perdu, c'est par exemple, par l'OCDE, c'est 25 milliards de dollars vers l'Afrique subsaharienne. On est très loin, si vous voulez, de l'équilibre. C'est pour ça que je pense qu'il faut, en même temps que prendre en compte ces questions économiques, poser avant tout le problème en termes politiques et culturels. Pour moi, il faut déplacer le problème de ce point de vue-là. Alors, la question économique est évidemment importante, mais il faut vraiment, à mon avis, aller vers cette question politique et culturelle. Et moi, j'insisterai particulièrement sur la dimension culturelle.
Marcel Foucault, vous vouliez ajouter quelque chose et après je passe la parole à Olivier Mongin.
Oui, je voulais réagir parce qu'au fond, ce que vient de dire à l'instant Jean-Pierre Le Goff sur cette tension où on voit que les pays européens ne s'alignent pas forcément sur les mêmes positions, pour moi ça me fait beaucoup penser à cette question du partage du fardeau, c'est-à-dire qu'on considère que l'immigration c'est un fardeau en Europe. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand on a des élans humaniste au regard de la question migratoire, évidemment, on vient frapper un mur où chacun des dirigeants, des chefs d'État européens considère que dans l'espace national, aujourd'hui, la question migratoire est davantage un coût politique qu'un avantage politique. Et donc forcément, dans la mesure où la politique n'est pas définie à l'échelle de l'Union européenne, on voit bien que les enjeux nationaux dominent. Ils dominent parce qu'ils ont une répercussion, une résonance dans l'espace politique et électoral. Et comme on est à quelques mois quand même d'une élection européenne, on peut penser que cet enjeu migratoire sera probablement l'enjeu central de cette campagne. Je dirais pas qu'on est sorti d'une crise économique et financière pour tous les pays, mais la précédente élection européenne, on était encore sur la sortie de la crise économique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui suscite le plus de tensions dans l'Union européenne? C'est précisément la question migratoire. Et puis je rajouterai juste un point sur effectivement l'idée de ne pas se cantonner à une dimension économique pour traiter cet enjeu. Je crois que c'est fondamental. Et je dirais que certains chefs d'État, si on prend Orban en Hongrie, je trouve que de sa part, on voit bien que l'enjeu économique est rarement mis en avant, mais au fond, il se dit, si on fait l'explication de texte de ces propos, c'est tout simplement aujourd'hui la Hongrie n'a pas du tout et n'a pas envie d'avoir les capacités économiques pour accompagner en priorité ces migrants. Donc, pour moi, la dimension culturelle, elle est fondamentale, je pense, pour définir une politique européenne. Mais dans les espaces nationaux, il va être très compliqué, malgré les intentions de campagne, parce qu'on a vu que les choses ont évolué, les intentions de campagne d'Emmanuel Macron, il est très difficile de renverser une culture française vis-à-vis de l'immigration. Parce que, encore une fois, il y a un phénomène nouveau qui, d'ailleurs, avait commencé à poindre avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait voulu faire de la politique migratoire une politique migratoire avec des critères plus durs, notamment vis-à-vis du type de qualification qui était attendu des migrants. Quand on parle de demandeurs d'asile, ce qu'on a quand même pu observer depuis 2015, c'est que la France n'a jamais été exposée à une vague de migrants aussi qualifiés. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Et d'ailleurs, on le voit en Allemagne. Si Angela Merkel a souhaité accueillir plus d'un million de migrants, c'est parce que là aussi, en Allemagne, les économistes ont joué un rôle fondamental, beaucoup plus que les politiques. Alors aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, rattrape d'une certaine manière le temps perdu par la CSU en 2015. Mais l'argument économique, il n'est pas prioritaire, mais il me semble être le principal curseur des choix opérés par les pays européens jusqu'alors.
Olivier Mongin, vous vouliez ajouter quelque chose, mais en plus, je vais vous poser une question.
Oui, merci.
C'est en fait, en même temps d'Emmanuel Macron, qui fonctionne pas mal dans certains sujets, est-ce que sur ce sujet, il peut fonctionner? Est-ce qu'il va vraiment réussir à avoir une position consensuelle, ou alors les ailes gauches et les ailes droites sont vraiment, vraiment à l'opposé l'une de l'autre?
Le problème de Macron, c'est qu'il a, c'était dit, il a commencé qu'un certain discours humaniste qui pouvait plaire à une certaine gauche, la deuxième gauche, la mienne, je dirais, ou les gens qui moralisent un peu la vie politique au sens de dire faut défendre les droits de l'homme, etc. Bon, et après, on a quand même bien vu qu'il a installé un peu un duo avec Gérard Collomb. Hein, Gérard Collomb est sur le terrain, c'est lui qui fait le mauvais boulot, et puis lui, il faisait un petit peu des discours humanistes comme il sait faire de temps à autre, etc. Mais je remarque quand même qu'il en fait de moins en moins et qu'il a tendance à tout mélanger en ce moment, c'est-à-dire mélanger réfugiés, etc. Je pense que Macron, c'est pas pour rien qu'il a dit dans l'entretien à la NRF qu'effectivement, il découvrait à travers l'Europe le tragique de l'histoire. Mais ça aurait été bien qu'il sente le tragique de l'histoire avant. Non, mais ça, je respecte les gens qui reconnaissent le tragique, parce qu'il y a très peu de gens qui reconnaissent le tragique de l'histoire. Le tragique de l'histoire, c'est pas simplement l'Aquarius. C'est le fait que l'Europe, on en parlera peut-être plus, évolue de manière extrêmement difficile. Moi, juste trois remarques en écho, donc, à ce que vous dites. Moi, les intérêts nationaux, oui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de politique européenne? Est-ce qu'il peut y avoir une politique européenne? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Catalogne, parce que je ne comprenais pas l'incapacité, ça n'a rien à voir a priori, l'incapacité de l'Europe à intervenir face à Rajoy, pour essayer de faire de la politique, c'est-à-dire de la conflictualité. La politique, c'est de la conflictualité. Si on veut négocier, c'est parce qu'on est en désaccord. Et par rapport à la Catalogne, ça m'a beaucoup éclairé sur l'Europe, moi qui le suis, plus certain que mon ami Jean-Pierre Le Goff, c'est que on était incapable de faire de la politique, c'est-à-dire de conflictualiser pour négocier. Et là, sur le problème de l'Europe et des migrations, il y a deux problèmes de fond. Un, cette incapacité de faire négocier des nations qui ne prennent pas leurs responsabilités de la même manière. Parce que moi, là, a priori, j'ai aucune raison de ne pas défendre la France sur ce plan-là. La France, quand Macron dit qu'on est le deuxième pays le plus généreux, c'est totalement faux. François Héran le montre, le bras aussi. C'est totalement faux. On est le 13e. Si on a des chiffres précis, c'est pas ma compétence. Je suis François Héran, qui est une des personnes les plus remarquables, qui est le prof au Collège de France sur ces questions-là. Lui, il prend des mesures. Je rentre pas dans le débat technique. Lui, il montre qu'on est bien en retard. Et que, par exemple, l'Autriche, aujourd'hui, est un des pays, où l'extrême droite est extrême, vous me confirmez, est un des pays qui a le plus accueilli. Bon, après, quand Macron se permet de dire à Salvini, bien sûr que moi je n'aime pas Salvini, enfin, si c'est qu'un problème d'aimer ou pas aimer, hein, mais quand il se permet de faire des remarques à Salvini, qu'on n'est pas capable d'accueillir l'Aquarius, c'est qu'après il va dire, l'Aquarius que je n'ai pas effectivement accueilli dans un port, ah bah tous ceux qui veulent effectivement avoir un titre de séjour, qui viennent chez nous. Bah, dans ce cas-là, fallait les faire venir directement au port. Il y a quand même beaucoup de malhonnêteté dans chaque, je dirais, langage national, et les plus malhonnêtes ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit, hein. Et nous, effectivement, on voit très bien, vous disiez en même temps, quelque part, il faut le patriotisme et des droits de l'homme. Hein. Il faut de temps en temps qu'on... Bon, moi, ça me convient très bien, mais je vois très bien que ça ne fonctionne pas. Et puis l'autre côté, après, bah, c'est des débats qui ne sont pas techniques. C'est le problème, effectivement, des pays d'accueil. On a laissé à certains pays, ceux du Sud essentiellement, on leur a laissé tout le boulot. Quand vous regardez les chiffres de l'accueil, effectivement, la France par rapport à l'Italie et l'Espagne, l'Espagne qui a toutes les modalités d'accueil qui se débrouillent assez bien, on est quand même les Français les plus beaux parleurs et les plus inquiétants. Moi, je dirais, c'est pour ça que moi, je n'ai pas les compétences de mes amis là sur la, enfin, sur la politologie, mais je crains quand même, bon, parce que Macron, en même temps, Macron, je pense qu'il avait, il a compris que ce pays était à droite, le nôtre, mais il n'avait pas compris qu'il était encore plus à droite. Hein, que, ça, c'est mon point de vue, que sera peut-être infirmé, mais moi, j'en suis sûr. Macron, il regarde les sondages quand même, ceux du Cevipof ou d'autres, il regarde les sondages, et bon, il voit très très bien que ce pays, bon, le problème d'un homme politique comme lui, quand même, c'est quand même d'avoir un discours et qu'il prenne les risques de faire bouger ça, les gens à qui il s'adresse, et pas de suivre le peuple et les sondages. Ça, pour moi, c'est la question de fond, il y reviendra. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Je ne serais pas nécessairement d'accord, après, avec Jean-Pierre sur les points identité et tout. N'oublions pas que la dernière vraie politique d'immigration, parce qu'il n'y en avait quasiment pas en France, c'est Sarkozy qui la met en place pendant 12 ans. Et Sarkozy, il accueille quand même 200 000 titres de séjour aujourd'hui, il y en a 260, chaque année. On ne parlait que de Sandgate, etc. Parce que là, il a effectivement, il a créé un espace délinquant et il se taisait sur le reste. Hein. Bon, voilà. On a donc un problème de représentation de, je dirais, de la politique migratoire chez nous. On a un problème européen. Et après, je dirais, et là, moi, je me décalerai un petit peu. C'est là-dessus que je travaille. Je pense que la mondialisation, c'est pas n'importe quoi. Qu'aujourd'hui, le devenir du monde, ça passe par la Chine et ça passe par les États-Unis, où Monsieur Trump s'amuse lui-même à diviser les Européens, alors même qu'il accueille même plus les enfants. Enfin, il est obligé de revenir. Il y a Trump aussi qui vient casser, vous, je crois que vous connaissez mieux que moi les problèmes internationaux européens, etc. La baraque sécurité, OTAN, etc., elle est quand même fatiguée aussi. On a une Europe très fatiguée. Très, très fatiguée. Et, alors, deux remarques finales simplement. Moi, ce qui m'a quand même plu, c'est de voir. Parce que, effectivement, les gens de gauche par rapport à Macron, moi je connais pas mal de gens de la deuxième gauche qui ont soutenu Macron. Je vois très bien. Et c'est eux qui sont furieux. Ils sont furieux. Et parce qu'ils ont ce côté qui peut être moralisant, qui peut être simplement... Après, il n'y a pas que la gauche qui est sur le terrain migratoire. Pourquoi est-ce qu'il a fait le discours aux Bernardins, c'est-à-dire aux évêques Macron? Parce qu'il sait très bien qu'une grande partie de la population catholique, celle dont parle notre ami Le Goff dans son livre qui a eu le prix France Culture, le catholique qui peut voter à droite, c'est quelqu'un qui va aller accueillir des migrants dans son église. Hein, ou chez lui. Moi, je peux donner 50 exemples, on sait que c'est vrai. C'est pour ça que Macron est allé au Bernardin, pour dire aux cathos, bah, faut m'aider là-dessus. Hein. Alors, vous votez à droite, mais etc. Bon, moi, ça là-dessus, ça ressort pas suffisamment, je trouve, dans les sondages. On n'est pas du tout sur droite-gauche. On n'est pas sur droite-gauche. Vous avez, bon, Le Goff connaît ça mieux que moi, parce que si tu connais mieux le monde catholique, sens, ah, oui. C'est ce dont tu parles dans ton bouquin. Alors, bon, il y a quand même des restes de catholicité qui sont liés à l'accueil, etc. Alors, je voudrais dire là-dessus, c'est pour ça que le problème, c'est pas simplement quelle politique. Est-ce qu'on peut moraliser la politique? Jusqu'où? Moi, je suis le premier à dire, on fait de la morale ou de la politique. Non. On peut moraliser la politique et on peut politiser peut-être la morale. Dans le numéro d'esprit, qui n'est pas moi qui l'ai fait, je dirais juste après une dernière chose. Dans le numéro d'esprit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la tentative d'essayer de penser une politique de l'hospitalité. Hein, et voilà, qui s'inscrit, moi je peux, c'est là-dessus que je travaille, qui renvoie à des choses extrêmement importantes, les mouvements de villes-refuges dans le monde entier, tout le sud de l'Espagne, toute l'Espagne et d'autres pays du sud, et les villes-sanctuaires aux États-Unis, dont on ne parle pas. Les villes-sanctuaires, c'est un exemple remarquable de ce que font des citoyens par rapport aux problèmes migratoires. Alors juste une remarque, je voudrais quand même signaler une chose très positive, c'est quand même ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, réintégrer le principe de solidarité lié à celui de fraternité, en le liant à l'ordre public. Vous savez, c'est lié au fait que certaines personnes qui accueillaient des migrants dans le Mercatour, etc., étaient arrêtées par les policiers. Parce qu'il y avait un délit de solidarité. Aujourd'hui, on parle de, effectivement, on a refusé, enfin, on a remis en cause ce déni de solidarité. Le problème, c'est de lier et je m'arrête.
Oui, parce
solidarité
que je voudrais juste donner la parole à Jean-Pierre Le Goff.
Solidarité et ordre public.
Jean-Pierre Le Goff, justement,
oui, enfin,
vous voulez réagir.
La question droite-gauche, ouais. Je pense qu'il y a quand même un courant, d'ailleurs, que vient de souligner Olivier Mongin, qui est quand même le courant qui a beaucoup de difficultés à distinguer la morale et la politique. C'est-à-dire qu'en plus, il faut savoir qu'on fonctionne dans une société à l'émotion, via les images et via les réseaux sociaux. Et qu'il y a une espèce de pression constante, si vous voulez, de l'émotion, notamment quand on voit des gens dans l'eau et les femmes africaines avec leurs enfants. Là, je veux dire, la souffrance réelle écrase tout. Hein. Alors le problème sur lequel il faut faire attention, ça écrase tout. Donc qu'est-ce que vous allez raisonner ? Mais la politique, ça peut pas fonctionner comme ça. Il y a d'abord ce que je crois, parce que il y a les intérêts nationaux et européens. Mais moi, je pense qu'il y a aussi, encore, les intérêts nationaux ne sont pas totalement dissous dans l'Europe. Alors bon, comment ça s'articule, etc. C'est une autre question, mais ils ne sont pas dissous. Alors l'émotion, elle peut être légitime, mais il faut faire attention, parce qu'on a affaire à des groupes de pression gauchisant, moralisateur. Certes, les ONG ont un rôle à jouer. Si on se situe dans l'humanitaire et si je me situe dans l'éthique, je comprends tout à fait, il y a quelqu'un qui meurt de faim à côté de moi. Naturellement, moi j'estime que c'est un devoir moral de s'en occuper, si vous voulez. Mais je ne vais pas déduire de ça une politique. On dit le bon samaritain, je ne sais plus ce qu'il disait, le bon samaritain, c'est bien, mais on ne sait pas ce qu'il il a donné, la moitié de son manteau, mais les jours suivants, qu'est-ce qu'il est devenu, le gars en question? Et ça commence à être la politique. Parce qu'il ne suffit pas de donner la moitié de son manteau. Et si chacun pouvait accueillir un migrant chez lui, ben là je demande aux gens de le faire, si vous voulez. Hein. Mais je vous signale que cette question d'immigration, moi je me souviens dans les années 90-2000 à Paris, où c'était les clandestins, on parlait des travailleurs sans papier, où il y avait un appel de ce courant de gauche, sur lequel je suis très critique, à aller manifester à la gare de l'Est avec l'habit des déportés, en faisant l'analogie que je trouve absolument scandaleuse entre les juifs déportés, comme on a fait d'ailleurs avec l'Aérius et l'Exodus. Alors quand même, il faut quand même rappeler que l'Exodus a été escorté par la marine, que l'Exodus a été... C'est les Anglais ont éperonné le bateau, oui. Et il y a eu des morts. Là, c'est tout l'inverse, on l'escorte. Et là, vous avez un discours qui est, à mon avis, insupportable, et la politique, je crois, n'a pas... Elle peut, effectivement, elle n'est pas insensible à la morale, mais elle a une logique propre. Et alors, on revient sur les catholiques, et ça, Olivier Mongin a tout à fait raison, c'est très important, parce que je pense qu'il faut faire attention au grand méli-mélo. Le grand méli-mélo des bons sentiments, moi je pars d'un principe très simple, les bons sentiments, c'est pas tout à fait l'éthique de conviction, hein, c'est encore un peu avant. Moi je garde un principe très simple, on fait pas de la politique avec les bons sentiments. Ça veut pas dire qu'on est insensible personnellement à la misère humaine et qu'on a une dimension éthique personnelle. Mais ça ne peut pas être une politique. Voilà ce sur quoi, mais personnellement, j'insisterai. Et je pense qu'il faut parler des catholiques. Dans mon livre, j'en parle, mais on est passé, si vous voulez, d'un catholicisme très rigide à quelque chose que j'estime un catholicisme sentimental, si vous voulez, très méli-mélo, qui ne distingue pas, à mon avis, les différentes sphères d'activité. Voilà.
Merci Foucault. On a vu qu'on a juste abordé le sujet très rapidement de ce qui se passe en Europe tout à l'heure, mais les lignes de fracture interne, elles sont pas typiques à la France, mais elles sont aussi différentes parce qu'on voit qu'en Italie, le mouvement de la gauche radicale 5 étoiles est anti-migrant, alors que ses frères espagnols et allemands, Podemos et Die Linke, sont pour l'ouverture. Comment
oui, c'est,
on comprend plus rien.
C'est pour ça que l'immigration seule ne peut pas être une ligne de fracture pertinente pour comprendre les espaces politiques nationaux. Pour moi, si vous voulez, politique migratoire doit être associée à l'Union européenne. Parce que c'est de ces deux dimensions que l'on peut comprendre que dans certains pays, et c'est le cas notamment de l'Italie. L'Italie a toujours été depuis 20 ans un des pays, on pourrait dire presque paradoxalement, aujourd'hui, les plus en faveur de l'Union européenne, les plus en faveur de l'intégration européenne. Et depuis 5 ans, on voit que tout cela a volé en éclats après la crise. Et né de cette crise, en Italie, deux partis, le parti 5 étoiles et la Ligue du Nord, qui partagent ensemble l'idée d'un repli sur soi. Et le repli sur soi, ça veut dire l'Union européenne n'a pas été suffisamment protectrice dans cette période de crise. Et pour ces deux électorats, de ces deux partis en Italie, l'immigration est perçu comme une menace. Ce n'est pas perçu comme une forme d'enrichissement culturel, comme une forme de demande sociale ou demande économique, c'est perçu comme une menace. Et en ce sens, ça rejoint également des positions prises par les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite en Grèce, parce que on parle beaucoup de l'Italie et de l'Espagne comme première porte d'entrée, mais la Grèce, depuis 3 ans, accueille des dizaines et des dizaines de milliers de migrants. Et elle n'a pas les capacités économiques. Alors, elle peut avoir les capacités émotionnelles. Mais je crois que ces capacités émotionnelles ne suffisent décidément plus. Donc, comment expliquer que certains partis de gauche conservent une forme de progressisme, d'ouverture vis-à-vis des migrants et d'autres non? Pour moi, c'est lié finalement au positionnement vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que quand on est un parti de gauche et qu'on a une position plus progressiste, en général, ça correspond à des partis politiques qui croient toujours en l'intégration européenne. À l'inverse, pour les partis de droite, c'est l'inverse. Et il faut être très prudent parce que si on regarde un petit peu ce qui se passe en France, prenons la France insoumise. On observe une évolution que moi je qualifie substantielle entre 2012 et 2017 sur la question migratoire. On a une évolution dans le discours où, pour ne pas le citer, mais Jean-Luc Mélenchon, en 2017, nous explique que cette question migratoire impliquerait davantage de traiter le problème à la racine, ça veut dire arrêter les conflits, arrêter les guerres dans les pays d'origine. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, bon, la question ne se poserait pas dans l'espace national. On voit qu'il y a un glissement. Alors, il y a probablement des arrière-pensées électoralistes en 2017 qui ont pu conduire le discours de Jean-Luc Mélenchon à se durcir, alors que son électorat n'est pas totalement aligné sur cette position. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon, un des électorats les plus progressistes vis-à-vis de la question migratoire. Donc, en revanche, il est un des électorats les plus virulents vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, pour moi, migration et politique européenne et Union européenne vont de pair. Et je crois qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Le malaise qui existe au sein des partis politiques, c'est ne plus faire revivre, réinstaller la question des frontières de l'Union européenne. Parce que pour moi, c'est un aspect essentiel et on ne veut plus, d'une certaine manière, faire revivre les débats de 2008-2009 lorsqu'il s'est agi de discuter de l'intégration de la Turquie.
Les frontières, ce sera sans doute le thème d'une prochaine émission. Parce que là, c'est la fin de ce premier débat consacré aux conséquences de la crise des migrants sur les partis politiques français. On se retrouve tout de suite après une pause musicale.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Vous venez d'écouter Les gens qui doutent de Anne Sylvestre.
Le magazine du week-end, Isabelle Lasserre.
Il est maintenant l'heure d'ouvrir notre second débat du magazine d'été. François Hollande, le président normal, était son contre-modèle. Lui se voulait Jupiter, le maître des dieux dans la mythologie romaine, celui qui gouverne le ciel et la terre et dont le caractère impérieux et dominateur fait souffler un vent nouveau sur le pays. En un an, il a restauré l'autorité de l'État, rétabli la verticalité, mais aussi la solennité de la fonction présidentielle. Il s'est aussi glissé dans la constitution de 1958, une constitution de crise dessinée par un général aux ambitions politiques aussi facilement que De Gaulle, à tel point qu'on a parfois l'impression qu'elle a été faite aussi pour lui. Là où ses prédécesseurs avaient calé face aux pressions de la rue, Emmanuel Macron ne cède ni aux étudiants ni à la SNCF. Il avait promis de réformer la France et il tient ses engagements. Pourtant, le congrès de Versailles, le 9 juillet, a été boycotté par la France insoumise, qui ne veut pas se rendre au rendez-vous du monarque, et par plusieurs députés républicains qui auraient aimé pouvoir répondre au président après son intervention. Le projet de loi constitutionnelle discuté en ce moment à l'Assemblée nationale est critiqué par l'opposition, qui considère que les mesures visant à limiter le droit d'amendement et à baisser le nombre de parlementaires sont un nouveau renforcement de l'autorité du pouvoir exécutif. Depuis le début de l'été, la popularité d'Emmanuel Macron s'érode. Selon une enquête du Cevipof réalisée en mai dernier, 55% des Français considèrent que le président et son gouvernement sont trop autoritaires. Depuis, Jupiter est devenu Ulysse, en tout cas dans les propos du Premier ministre Édouard Philippe, qui a récemment comparé Emmanuel Macron au héros grec qui, je cite, « jamais n'abandonne, qui sait où il veut aller et ne lâche jamais l'affaire ». Rome ou Athènes, Jupiter ou Ulysse, c'est ce dont nous allons débattre avec nos invités. Ils étaient déjà là pour la première partie et se sont donc déjà bien échauffés pour se frotter aux dieux grecs et romains. Martial Foucault, directeur du Cevipof, Jean-Pierre Le Goff, sociologue au CNRS et président du club politique Autrement, et Olivier Mongin, directeur de la...
On dit publication, c'est-à-dire...
Publication.
Je suis pas patron de la rédaction, Esprit. Donc le vrai directeur, c'est le patron de la rédaction.
Je ne ferai pas l'erreur.
Non, non, mais c'est pour...
Je ne ferai pas l'erreur deux fois. Jean-Pierre Le Goff, le style Jupiter, si ça marche, c'est un problème ?
Moi, je ne poserai pas les problèmes en ces termes-là.
Allez-y, reformulez ma question, c'est fait pour ça. Hein.
Jupiter, oui, je pense que d'abord, Macron n'a pas de mal par rapport à celui qui l'a précédé. C'est-à-dire que le président normal qui prend le train, et puis qui malgré tout se fait photographier discrètement avec sa maîtresse en scooter, enfin à propos de la fonction présidentielle, si vous voulez, c'est pire que le cinéma, quoi. On aurait dit avant que ça se passerait, on n'aurait pas cru. Donc, mais je pense qu'il faut remonter plus loin hein, dans la dévalorisation de la fonction. C'est-à-dire Sarkozy, dans le genre, n'était pas si mal, rappelons-nous... Tire-toi de la petite con, enfin, je sais pas, ces expressions vis-à-vis des jeunes dans des banlieues, avec des petites phrases qui sortaient, celui qui a pas une Rolex, vraiment, qu'est-ce qu'il est? On l'appelait Sarko l'Américain. Donc, ça vient de loin, cette érosion, hein, ça date pas de Macron. Alors, comment Macron s'inscrit dedans? Voilà, ça, c'est pour moi la question de fond. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup chez Macron, au moment où il a été élu, personnellement, quand je l'ai vu arriver à la pyramide du Louvre, j'ai été un peu effrayé, alors que tout le monde disait « c'est formidable ». Pourquoi ? Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est la capacité qu'il avait, à une vitesse très, très rapide, de changer d'habit. C'est-à-dire, il était un peu dans la logique candidat, c'est normal, et tout d'un coup, surprise générale, il y a l'hymne à la joie, il met « et c'est un homme marche vers son destin » avec la musique, il est pris en contre-plongée, tout le monde est surpris avec une mise en scène. À ce moment-là, on dit Bonaparte, etc. On s'interroge, les intellectuels, est-ce que c'est Bonaparte? Non. Il y a du Valéry Giscard d'Estaing, peut-être un peu de Valdez Crousseau. Et alors on tourne comme ça, on tourne. Eh bien, moi, la question que je me pose, c'est que plutôt que chercher en disant oui, sûrement, il y a du bonapartiste, mais est-ce que le président Macron, c'est pas tout cela à la fois? C'est-à-dire arriver à penser qu'il peut être tout à la fois et qu'il, d'une certaine façon, il reflète assez bien l'air du temps. C'est-à-dire qu'il est présent à tous les étages. Et il y a un côté qui m'étonne beaucoup, si vous voulez, c'est sa capacité à changer d'habit très vite. Hein. Par exemple, il engueule à juste titre un jeune à propos, attention, tu m'appelles Manu, ah, mais moi je suis président. Deux jours après, vous avez une photo merveilleuse qui circule d'ailleurs dans les réseaux sociaux et qui fait très mal. Vous avez monsieur et madame Macron entourés des DJ, et je vous signale que la photo est au le coup. Voilà, donc on passe de « je suis président », ensuite 14 juillet, je redeviens le chef des armées, l'autre fois je prends un blouson, et en même temps j'esquive de pas de banc. On a oublié Obama. On a oublié Obama et sa femme. On pourrait remonter à Clinton, lui il jouait du saxo si vous voulez. Hein. Mais il y a quelque chose d'une américanisation de la scène politique française, et Macron, c'est tout ça à la fois, et je pense que il choisit ses séquences, il veut être le maître des séquences, hein, séquence, il y a telle séquence chef des armées, séquence cool avec jeune selfie, etc., et il maîtrise tout. Alors moi, ce qui m'a encore le plus frappé, c'est le dernier discours au Congrès. Il est capable d'intégrer tout, y compris les critiques, sur un plan formel. Oui, l'humilité d'un président, hein, c'est quand même important, hein. Oh oui, puis je vais vous faire une confidence, figurez-vous, hein. Eh bien, oui, ben, je suis humble, puis on peut faire des, on n'est pas omniscient. Alors bon, moi je veux bien, si vous voulez, mais c'est ça qui me frappe le plus, c'est cette capacité à changer d'habit. On dit l'habit fait pas le moine. Oui, mais alors là, on a l'impression que ça fait le moine. Et la question, il faut la resituer dans une évolution historique et un nouvel éthos de la société. C'est pas simplement la politique qui est en question. C'est que je pense qu'on a affaire aujourd'hui, à l'intérieur, à une société beaucoup plus morcelée qu'avant. On a affaire à des individualités, je dirais pas patchwork, mais quand même, qui nous déconcertent les générations antérieures, parce que les générations antérieures étaient habituées à un minimum de principes de cohérence. Cohérence dans le discours, principe de non-contradiction. Moi, j'ai été élevé dedans, si vous voulez, avec la philo. Bon. Et puis aussi, minimum, parce que la politique, c'est compliqué, de cohérence entre les... Entre les paroles et les actes. Et ce qui est très déconcertant dans la société, quand vous discutez notamment avec, je dis pas toutes les jeunes générations, etc., mais vous avez cette dimension patchwork, et ben, ils vous disent, mais où il est le problème? Eh bien, avec Macron, j'ai l'impression qu'on a un peu cette dimension-là. J'y rajouterai les dernières images que j'ai vues de Macron au 14 juillet. C'est quelque chose de très émotionnel et sentimental. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. On aurait dit qu'il faisait sa prière. Ça m'a beaucoup frappé. Et je pense qu'il ne joue pas là. Il représente et il incarne ce nouvel éthos de la société, cette nouvelle sensibilité démocratique qui, pour moi, est problématique dans le rapport à l'institution et à la politique.
Donc ni Jupiter, ni Ulysse, mais plutôt un président caméléon. Martial Foucault, quand les Français reprochent à Emmanuel Macron d'être trop autoritaire, de quoi parle-t-il? Que lui reproche-t-il?
Alors, il lui reproche effectivement plusieurs choses, parce qu'on a le sentiment que depuis quelques semaines, cette question d'un art de gouverner ou un art de présider de manière autoritaire serait le principal reproche. Bon, mais on lui reproche, et je partage ce que vient de dire Jean-Pierre Le Goff lors du discours au Congrès, je pense qu'Emmanuel Macron a intégré d'autres traits d'image négatifs, c'est-à-dire on lui reproche aussi une forme méprisante vis-à-vis d'un certain nombre de catégories sociales de la société française. On lui reproche aussi d'être au fond très peu empathique. Et dans ce discours, c'est vrai que c'est en général, si Emmanuel Macron a installé ce discours au mois de juillet à Versailles chaque année, c'est au fond faire un petit peu ce que font les Américains ou en tout cas tous les systèmes parlementaires de Westminster, c'est-à-dire sorte d'adresse vis-à-vis de la nation en disant quelles sont mes priorités pour l'année à venir. Or là, qu'est-ce que l'on a découvert? On a découvert effectivement Emmanuel Macron qui faisait presque acte de contrition sur un certain nombre de reproches qu'on peut lui adresser. Et l'un d'entre eux, alors effectivement, il a essayé de mettre en scène une humilité dont il avait conscience et qu'il souhaitait partager, mais aussi il a commencé, je trouve, à entreprendre une sorte de rétro-pédalage sur la question de l'omniscience ou de l'efficacité, en disant disant, bon, nous tentons des choses, nous serons peut-être pas efficaces dans tous les domaines. Or, le terme d'efficacité, pour moi, c'est, puisqu'on s'interroge beaucoup à savoir c'est quoi idéologiquement, c'est quoi le macronisme. Et pour moi, le terme qui revient quand même très souvent dans la bouche d'Emmanuel Macron et de ses ministres, c'est nous sommes ici pendant 5 ans pour faire de la France une nation efficace. Et le terme d'efficacité est décliné à peu près dans tous les registres. Donc ce qu'on lui reproche, c'est effectivement cette forme d'autorité. Mais derrière l'autorité, et pas l'autoritarisme, derrière l'autorité, c'est cette impression qu'ont les Français qu'au fond Emmanuel Macron, certes, avait clairement indiqué pendant la campagne qu'il souhaitait réformer un pays dit irréformable, mais que la réforme n'a pas pris la forme, le chemin auquel la culture politique des Français est habituée. Il n'y a pas de culture de la réforme en France. Or, il expliquait que finalement, et avec beaucoup de talent, certainement pendant la campagne électorale, que tout cela devait se faire. Alors, il a peu utilisé le terme de dialogue, mais un petit peu de concertation, qu'il tiendrait compte des différentes sensibilités, parce que lui-même ne se reconnaissait pas dans une des catégories habituelles des familles de gauche ou familles de droite. Or là, ce qu'on lui reproche, au fond, c'est un passage en force. C'est de ne pas tenir compte des partenaires qui ne pensent pas nécessairement comme lui. Et moi, je pense que c'est une véritable stratégie. Alors, on pourrait parler un peu de communication politique, mais pour le moment, mettons-le de côté parce que ça pourrait être très très long. Mais je pense que ça renvoie à une vraie stratégie politique. Parce qu'au fond, Emmanuel Macron, si je reprends les formes classiques de l'autorité chez le sociologue Max Weber, Max Weber donne 3 autorités. L'autorité traditionnelle qui vient des usages. Et là, on pourrait dire que s'il a porté aussi facilement l'habit de président de la République, c'est précisément parce qu'il voulait pouvoir disposer de cette autorité traditionnelle. Mais il y a 2 autres autorités. Il y a l'autorité charismatique. Et je crois qu'Emmanuel Macron, jusqu'alors, ne possédait aucun élément d'autorité charismatique. Et l'autorité charismatique, c'est ce qu'il est en train de construire. Et l'autorité... C'est-à-dire cette rupture avec le chef d'état-major des armées en juillet dernier contribue à cet élément. Recevoir Poutine et Trump contribue à construire cette autorité charismatique. Quant à la dernière, c'est la seule autorité dont il disposait jusqu'alors. Ce que Max Weber appelle l'autorité rationnelle, légale, qu'on pourrait aussi qualifier d'autorité technocratique ou presque bureaucratique. C'est son expérience de ministre qui était le seul faire-valoir d'un président qu'il souhaitait incarner. Donc aujourd'hui, je dirais qu'Emmanuel Macron, après 1 an, est-ce que c'est Jupiter, est-ce que c'est Ulysse, c'est très compliqué parce que je crois qu'il ne faut pas toujours convoquer la mythologie pour essayer de qualifier un président de la République. Moi, je prends juste l'histoire des présidents de la République française de la 5e République et je crois qu'au fond, Emmanuel Macron, c'est, d'une certaine manière, c'est un peu la revanche des institutions de la 5e. C'est-à-dire que il a été élu sans parti politique, mais avec un mouvement. Et je crois que la nuance est intéressante. Et au fond, c'est la revanche parce que il se met dans les pas de Gaulle en 58. Il n'a pas du tout envie d'être embêté par des partis politiques. Le Parlement, c'est à surveiller de très près, mais plus le Parlement est éloigné de son agenda et plus il contribue, moi je pense, à constituer une nouvelle figure. On avait beaucoup parlé de l'hyper-président pour Nicolas Sarkozy, du président normal, ça a été rappelé. Mais je crois qu'il est plutôt en train de constituer ce qu'on pourrait appeler le président qui gouverne. Et parce qu'il n'est pas seulement là pour présider, il gouverne. Et c'est pas anodin de voir que depuis 1 mois, il n'y a presque pas de couac dans le gouvernement. Mais ils n'ont aucun espace de liberté et de marge de manœuvre.
Vous êtes d'accord, Olivier Mongin, avec la constitution de 1958 ?
Plus ou moins, parce que moi je fais partie des gens qui avaient été regardés ce qu'avait fait Macron plus jeune. Et par rapport à l'image qu'on donnait de lui, il venait de Chirocard, deuxième gauche, Strauss-Kahn, et il y a eu une erreur totale d'analyse, parce qu'on a vu que le côté, justement, deuxième gauche, celle qu'aime pas trop mon ami Le Goff, un peu l'horizontalité, la délibération, ce dont tu as parlé. Bon, Macron, il n'y a pas que moi, Boucheron et d'autres ont été regardés, il a travaillé sur Machiavel, et je pense que c'est effectivement un prince machiavélien. Ah, oui. C'est un prince, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une très grande capacité de voir quand il faut agir et surtout de tenir le coup. Ce qu'il entend moins bien, ce que dit toujours Machiavel, faut entendre le peuple. Parce que seul le peuple sait à quel moment le prince peut tomber. Hein, voilà. Il y a un côté. Alors moi, je dirais Macron avant de revenir.
Parce que aussi, excusez-moi, mais il on a l'impression qu'il amplifie le
côté
présidentiel.
Ah oui, mais moi, je vais faire un article pour la revue Commentaire. Pour moi, c'est un prince italien. Ouais, d'ailleurs, ouais. Il est bien plus proche de prince républicain. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que Macron, il a, d'une certaine manière, il a un pied dans l'État. Et c'est ça qu'on n'est pas vu. Pourtant, c'était un énarque. Dans la revue Esprit, il a dû faire 3-4 papiers de réforme de l'université, de l'État, etc. C'est un étatiste. On oublie toujours qu'il avait un pied chez Chevènement. Il vient de chez Chevènement. Ah, ouais. Il vient de la deuxième gauche. Le en même temps, il est là aussi. Donc, c'est un étatiste très profondément. Même moi, j'étais totalement surpris. C'est quelqu'un qui, effectivement, met en valeur la haute administration et qu'elle se mette au boulot. Donc, il y a lui qui se met au boulot. Et moi, j'aime pas trop les trucs ironiques, ça n'a pas été le cas ici, sur Macron, parce que c'est trop facile de le casser sur le côté un peu charismatique et tout. Il a un petit côté jupitérien de fait. Simplement, il suffit pas d'avoir le pouvoir pour avoir l'autorité. Et Jupiter a découvert aussi qu'il n'avait pas l'autorité. Ce qu'on appelait le théologico-politique autrefois, bah, c'est que le pouvoir avait de l'autorité. On est dans un monde où il y a une dissociation du pouvoir et de l'autorité. C'est peut-être ce que les Trump et autres ont compris. Justement, en même temps, on a un durcissement de la force politique aujourd'hui à l'échelle du monde. C'est pas pour rien. Bon, Macron, donc, un pied dans l'État, je serai rapide, et un pied dans la société civile. Un pied, la société économique. Pas qu'économique. Parce que tous les gens qui ont regardé de près le discours des Bernardins et tout ça, les discours aux trois communautés religieuses, c'est quelqu'un qui a compris qu'une société, je vais pas là faire, on a un philosophe à ma gauche là, c'est ce que Hegel appelait la Sittlichkeit. Une société, c'est des mœurs qui ne sont pas faites que par les échanges économiques. Et ça, Macron, il le sait très bien. Les trois discours aux communautés religieuses sont très importants et on attend, au fond, ils sont le prélude à la communauté musulmane. Mais là, il a du mal. C'est pas notre ami Le Goff qui va l'aider. Bon. Et voilà. Donc moi, je veux dire, un pied dans l'État, un pied dans la société. Et vous vous démerdez, vous prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes. Et il lâche pas. Ce qui n'a pas été trop dit, il ne lâche jamais. Et ça, c'est aussi, c'est le côté anti-Hollande. Parce que, on sait très bien, si on connaît Macron, le seul truc qu'il ne veut pas, il vous l'avait dit, c'est il a un contre-modèle qui est Hollande. Alors quand Hollande se permet des remarques sur lui, enfin, bon, ça c'est invraisemblable. C'est triste même. Bon, et donc, ça c'est la première remarque que je voulais faire. Simplement, il faut bien voir que là, qu'est-ce qu'il oublie Macron ? Il ne veut pas les prendre en compte, alors qu'elles font partie de la culture politique française, mais qu'elles ont en partie bloqué la culture politique française, c'est toutes les médiations. Les médiations, qui peuvent être syndicales, qui peuvent être le Parlement, c'est tous les corps intermédiaires. N'oubliez pas que la Révolution n'aime pas les corps intermédiaires. On a un pays qui n'aime pas les corps intermédiaires. De Gaulle n'aimait pas les corps intermédiaires. Macron, en haut, il est en haut et en bas, dans la société, mais la société efficace, hein, et dans l'État. Mais il veut pas perdre son temps avec les corps. Et là, il y a un problème parce que il les casse. Il les casse. Moi, je fais pas partie des gens qui pensent. Moi, j'ai soutenu Juppé en 95, même en venant de Lagon, on a suffisamment payé cher. Je pense pas qu'on négocie facilement avec la CGT, la SNCF. Hein. Mais on peut négocier avec Monsieur Laurent Berger. C'est mon côté CFDT. Pourquoi est-ce qu'il a été cassé, aussi, énervé Berger comme ça, alors qu'il avait besoin de tenir au moins un syndicat réformé? Enfin voilà, ça c'est la première remarque. Je voulais. Vous voyez, il a un pied de chaque côté. Et là, il est pas surprenant du tout. C'était d'entrée de jeu. Moi, je sais pas ce que c'est que le macronisme, sinon qu'il y a ni droite ni gauche. Le problème, il voit que le pays est très à droite. Et après, simplement pour moi, et je m'arrête, le problème de Macron, il nous a dit on va rentrer dans un nouveau monde. Ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, le nouveau monde, c'est à la fois le nouveau monde hexagonal. Là, ma question, elle est à vous, à Martial Foucault. Ben, quand on n'a plus les partis pour représenter, qu'est-ce qu'ils représentent? Ben, on voit bien que le mouvement, il ne représente pas. Là, on retrouve Obama. Une société, elle a besoin d'être représentée. On rejoint nos discussions sur l'immigration. On n'a plus de représentation. C'est une société en mal de représentation. Et moi, je suis des bons. Après, il y a le problème du journalisme, qui n'est pas ici, qui est aussi compliqué. On a le problème du Parlement. Il endosse, je dirais, le costume assez militaire. Il s'est très à l'aise dans le costume militaire, je trouve. Moi, ça m'a beaucoup surpris. De Gaulle, hein, la première erreur qu'il a faite, c'est de la manière de parler à De Villiers. Il n'a pas compris qu'on ne touche pas aux autorités comme ça. Bon. Alors, le problème, il casse un peu les corps intermédiaires où il ne veut pas perdre de temps avec eux. Alors, après, les corps intermédiaires, soyons clairs, faisons de l'histoire, comme a dit Martial Foucault. Moi, je connais des gens quand même qui ont écrit sur la social-démocratie française dès 85, ça s'appelle Manin et Bergougnoux, pas n'importe qui, il y en a un qui est au PS, pour dire qu'en France, la social-démocratie ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'on a pris le tournant néolibéral en 83, ce qui veut dire que M. Mitterrand regarde les sondages, ce que fait Macron encore aujourd'hui, et l'Europe. tout sera de la faute de l'Europe et on se retrouve avec la nation au milieu mais qui n'a pas beaucoup bougé parce qu'on n'a rien réformé. Et ma dernière remarque, ce sera ça. Macron, il réforme à toute vitesse, mais il réforme en hexagonalisant à mort. Il va aller très vite. Il nous a remis le guidon dans l'hexagone et on n'en peut plus parce que tout le monde prend un coup quelque part. Hein, sur sa fiche de paix, sur sa fiche de retraité, sur tout ce que vous voulez. La société est très fragmentée. Et quelque part, il participe du clivage que les médias entretiennent, je suis désolé là-dessus, ouais, ouais. Et même des grandes maisons. Le clivage, ami-ennemi, moi étranger. Donc il rentre dans le langage très clivant, très populiste. Hein, on l'a très bien vu avec Plenel et l'autre, là, Bourdin. Il adore ça. À la fois, il est Jupiter, mais ouais. Il va sur un ring de boxe. C'est pas possible. Absolument. On peut pas faire les deux. Il nous a dit, me laissez une minute là. Allez. Je veux pas faire du Hollande et tweeter toute la journée. En même temps, moi, je trouve que beaucoup de ses discours sont assez remarquables quand on regarde de près, même les grands entretiens qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il a besoin après d'aller castagner en permanence, de faire des coups, de remettre en place un petit môme? Il sait pertinemment que ça lui retombera sur la figure. Mais il cherche les coups et il en donne. Il y a un petit problème parce que, alors ma remarque, c'est qu'on est dans une société très clivée, très clivante, ami-ennemi. On est aujourd'hui dans le binarisme complet, à peu près partout. Hein. La société est très fragmentée. Dans son discours, parce que c'est assez faux, moi sur la fragmentation territoriale, le problème que je connais un peu, faut arrêter de dire ville-campagne, métropole contre les campagnes. C'est le délire. Et c'est une société qui se porte pas si mal que ça. Mais Macron on est dans un monde assez clivant que LFI a entretenu. Hein, et Macron, il fait pas grand chose pour justement remettre un peu de conflictualité. Et ce que vous avez appelé le dialogue, je ne sais pas ce que c'est, mais la démocratie, ça a besoin de conflictualité avec des gens avec qui je suis en désaccord. Alors, je sais bien qu'on discute pas comme ça avec Martinez, mais voilà. Bon, et dernière remarque, le Nouveau Monde, il est hexagonal, mais il n'est pas qu'hexagonal. Et Macron, justement, il nous a pas fait le monde dont on a parlé tout à l'heure, des migrants, etc. Il nous fait pas rentrer dans ce monde-là qui change à toute vitesse.
Jean-Pierre Le Goff, vous allez répondre à Olivier Mongin, mais je vais, avant de vous poser une question, je vais essayer de défendre Emmanuel Macron quand même. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire des réformes en France? Après tout, De Gaulle avait imposé le marché commun, Mitterrand l'euro, et si on ne passe pas en force, on réforme pas la France.
Moi je poserai d'abord la question de la souveraineté du peuple avant de dire les réformes. C'est-à-dire des réformes qui passent pas par l'acquiescement de la souveraineté du peuple, pour moi, ça ne peut mener qu'à terme à l'impasse. C'est-à-dire qu'en fait, on passe en force, apparemment ça passe, mais n'oubliez pas le désarroi et l'angoisse qui restent. C'est-à-dire, à la limite, vous pouvez gagner sur un terreau sociétal qui est totalement désorienté. Et ça date pas de Macron. Moi, je l'ai vu des 80. La multiplicité des chantiers des réformes, si vous voulez. Une société, j'adore d'ailleurs la phrase du Premier ministre, les Français sentent qu'il y a du mouvement. Ça, je trouve ça extraordinaire, cette fois. Pour aller où, exactement? Ça bouge, l'important, c'est que ça bouge. Et il y a une grande difficulté à fixer, au-delà des réformes elles-mêmes, vers où on va. C'est ça aussi l'angoisse, à mon avis, du pays. Alors, pour moi, Macron, si vous voulez, au départ, la façon dont il a été élu est quand même intéressant. Parce qu'il a compris une chose, c'est qu'il y avait d'un côté Marine Le Pen et de l'autre côté la France Insoumise. Et que c'était deux formes, on pourrait dire populiste, d'appel au peuple. Mais il a compris que, finalement, on pouvait entrer dans l'espèce d'interstice qui existait entre les deux, en marche, mais avec une démarche du rapport au peuple. Il n'avait pas de parti, qui est un peu semblable. Je ne vais pas faire Trump, mais il y a aussi, c'est un mouvement sur lequel on assiste, qui est international, au-delà de Macron. Deuxièmement, sur la question d'autorité charismatique, je poserai la question toute simple, est-ce que ça se fabrique? Et justement, le problème de Macron, c'est moi, personnellement, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire, l'habit, à des moments, c'est pas un jugement, hein, mais on voit que ça incarne pas vraiment. Alors, par exemple, la question aussi pour moi, c'est la promesse messianique d'une France adaptée au nouveau monde de la mondialisation. Au-delà des réformes techniciennes, etc., il y avait l'Europe. Il y avait l'Europe, qui était un peu la dimension, je dirais pas messianique, mais vraiment, on insistait, qui dépassait simplement la question efficacité pratique. Eh bien, le problème, c'est où on est. Parce que si ça tombe, qu'est-ce qui va rester à Macron? Voilà, à mon avis, la question. Dernier point, j'ai beaucoup de mal. Moi, je demande à regarder réforme par réforme, hein, et de façon pragmatique. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire que je la vois pas. Je suis tout à fait d'accord qu'il est capable d'écrire ou de faire écrire des textes qui sont absolument remarquables. C'est-à-dire, vous avez quasiment rien à dire. C'est ciselé, ça fascine. C'est le problème de la culture. Mais en même temps qu'il fait des textes comme ça, il vous dit que, ben, il n'y a pas de culture française, bizarrement. Alors après, il dit non, c'est une maladresse. C'est une maladresse, mais on n'attaque jamais le contenu. On parle de crime contre l'humanité, ce qui est quand même pas rien, la notion de crime contre l'humanité. On le dit en Algérie. C'est une maladresse. Surtout, qu'est-ce qui reste? On discute pas du contenu. On dit, je ne veux pas blesser la sensibilité des gens. Ça, c'est typique de la postmodernité où le contenu, on a beaucoup plus de plus en plus de mal à rentrer dedans, à argumenter dedans, au profit, attention à ne pas heurter la sensibilité. Olivier Mongin, pour terminer, l'a très bien dit. Deuxième gauche, chevènement, bah oui, c'est tout ça à la fois. Et dernier point sur De Gaulle, l'habit militaire, à mon avis, lui allait mieux, mais on va pas reprocher ça. C'est des... La question de Macron, c'est que moi je me méfie, si vous voulez, en général, hein, c'est pas Macron, des gens qui n'ont pas connu un parcours de vie, tu parlais du tragique de l'histoire, et de l'échec, à un moment donné. Mais on est dans une période, et je pense que ça pose le problème des générations entières qui ont été élevées, éduquées sur un tissu éducatif, où le tragique de l'histoire, etc., était évacué. Et dernier point, je ne pense pas que De Gaulle aurait été à la conférence des évêques, et pourtant c'était quelqu'un de très croyant. Quoi.
Marcel Foucault, puis après Olivier Mongin.
Oui, non, je voudrais revenir sur, au fond, les différentes contradictions qui viennent d'être soulignées. Et deux d'entre elles me paraissent essentielles par rapport à cette idée de l'autorité charismatique qu'il cherche à construire. C'est vrai que, et vous l'avez rappelé, l'importance, même la longueur et le contenu de ces discours sont des faits uniques des présidents au moins depuis Mitterrand. Est-ce qu'ils sont lus? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on peut on va picorer certaines fois des éléments qui peuvent qui vont provoquer débat. Mais c'est pas anodin. Je pense que effectivement Emmanuel Macron est un meilleur débatteur, meilleur acteur dans l'argumentation qu'un excellent orateur. Pour lui c'est effectivement important. Et puis le deuxième point, je crois qu'il y a un vrai pari pour Emmanuel Macron autour de la question des corps intermédiaires, parce qu'elle me semble, fondamentale. Pour moi, je pense que Macron a forcément lu et a dû apprécier Tocqueville. Et s'il a lu Tocqueville, il a pu comprendre quand même que la démocratie telle qu'elle s'est installée aux États-Unis n'a pas pu se faire sans le rôle des corps intermédiaires. Et pour moi, c'est un point étonnant, et j'ai pas forcément d'explication élaborée à fournir, sauf à penser que le pari d'Emmanuel Macron, que de se départir, ou en tout cas de malmener les corps intermédiaires aujourd'hui, participent plutôt d'une stratégie qui est précisément de ne pas être trop associé à la social-démocratie qui, au fond, pourrait se résumer à l'art du compromis. Et je crois qu'Emmanuel Macron, s'il est dans une logique de construction d'une autorité charismatique, il ne peut pas jouer que du compromis. Parce que cela, pour moi, est contradictoire avec l'idée de se construire une autorité charismatique. Et pour terminer, un point... Alors, c'est peut-être, là, c'est le spécialiste du comportement électoral qui parle. Je crois qu'il y a aussi, chez Emmanuel Macron, quand on parle de l'importance qu'il accorde directement ou inconsciemment à l'autorité, c'est au fond l'autorité aussi, dans ce vieux monde, ces catégories du vieux monde, la droite et la gauche, l'autorité appartient à l'ensemble des valeurs de la droite. Et je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans ce... à la fois comme il est perçu, ce droitisant, mais c'est aussi le cœur d'un électorat qu'il souhaite conquérir. Et s'il joue sur l'autorité, il sait que, bon voilà, il a fait le bilan. Benoît Hamon, c'est 6%, François Fillon, c'est 20%. Conquérir cet électorat, c'est pas seulement sur l'enjeu migratoire, même si on en a parlé, mais c'est aussi sur le registre plus culturel et des valeurs, et l'autorité y participe.
Olivier Mongin, vous avez 30 secondes.
Bon, ben c'est parfait, je vais être rapide. Moi, je pense que je voulais dire simplement, crise de la représentation politique, oui, et ça, Macron, il avait pigé, et excuserez, on a parti des deux partis extrémistes comme si on était en Italie, les autres partis, ça va pas, hein. Bon, je m'arrête. Le grand problème pour moi, c'est le côté de ma génération, mais j'essaye de prendre des choses ici, il n'y a pas d'approche historique, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation historique. Un pays a besoin d'une représentation historique. Alors ma question, on va s'arrêter là, c'est absence de représentation politique, absence de représentation historique. Peut-être c'est ça notre problème. Après l'Europe, l'Europe au bout d'un an l'a lâché. Il croyait à l'Europe, et effectivement ça s'est pas terminé comme ça. Et je vais juste après terminer, il est très clivant. Et le problème, on a vu, immigration, c'est moi et l'étranger, mais le problème c'est en train de se superposer haut et bas. Celui qui est le paumé et le friqué, hein, mais des trucs, moi je peux pas penser comme ça. Le problème de Macron, c'est qu'il se paye doublement le problème classique de l'argent, enfin et le problème de l'identité. Donc on avait dit immigration, mais le problème c'est qu'on va avoir collusion des deux problèmes. Et là, il faut qu'il fasse très attention.
Merci Olivier Mougin. C'est la fin du magazine d'été. Un grand merci à nos invités Olivier Mongin, Martial Foucault et Jean-Pierre Le Goff. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été préparée avec la collaboration d'Amélie Perrault et l'aide de Clara Garnier-Amouroux et de Christine Tomaso. Attachée de production Marianne Chassor. La réalisation était signée Clémence Grosse et à la technique aujourd'hui Alexandre Dang. Vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster en vous rendant sur le site de France Culture. www.franceculture.fr. Quant à moi, je vous retrouve samedi et dimanche prochain à la même heure. Bon dimanche, bon match et bonne semaine.